Réplique, l'islam est une religion française, point d'interrogation. Avec Philippe Diribarne et Hakim El-Karoui. J'ai mis un point d'interrogation au titre du livre d'Hakim El-Karoui, « L'islam, une religion française », parce que j'ai lu attentivement cet ouvrage ainsi que les entretiens donnés par l'auteur après sa parution. Or, à l'Express, il déclarait « Les islamistes ont gagné la bataille des idées. Ce que je sais de l'islamisme, c'est que c'est un projet de conquête ou de sécession. Ainsi, par exemple, les salafistes invitent leurs coreligionnaires à se désavouer de la société environnante. Dès lors, je m'interroge et je pose la question à mes deux invités, Hakim El-Karoui et Philippe Diribarne, auteurs notamment de « L'islam devant la démocratie ». Si l'islamisme a gagné la bataille des idées, comment faire pour que l'islam devienne vraiment une religion française, Hakim El-Karoui?
Alors, je vais vous dire en quelques mots ce que j'entends par religion française. C'est plusieurs choses. Et c'est d'abord un fait politique et social. On a vécu longtemps avec l'idée que l'islam, c'était un problème étranger et un problème d'étrangers. Il se trouve qu'aujourd'hui, les trois quarts des musulmans sont français. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, la moitié d'entre eux sont nés en France. La deuxième chose, c'est que l'islam a été longtemps perçu comme une religion exogène, incapable de s'insérer dans la société française. Et ce que je vois, et notamment grâce à l'enquête que j'avais faite avec l'Institut Montaigne il y a maintenant un an et demi, c'est qu'il y a un phénomène de divergence à l'intérieur de la population musulmane, divergence sociale, mais aussi idéologique et d'une certaine manière politique, qui fait que d'un côté on a des gens qui échouent de plus en plus d'une certaine manière et qui se mettent de plus en plus en marge de la société, et qui sont attirés par des thèses islamistes porteuses de rupture avec la société française. Et puis de l'autre côté, on a un mouvement qui est totalement silencieux, et j'expliquerai pourquoi il est silencieux, qui est un mouvement d'intégration, d'insertion, d'assimilation.
Vous ne refusez pas le mot d'assimilation, donc?
Non seulement je le refuse pas, mais je le revendique pas comme un projet politique. Je pense que c'est comme ça que fonctionne la société française. On en redira peut-être un mot. Mais donc, ce que je vois, c'est cette grande divergence. Avec d'un côté, du coup, plutôt une très bonne nouvelle, et je pense que c'est très important de rappeler qu'il y a des choses et des processus d'intégration qui fonctionnent très bien, et puis de l'autre côté, une source d'inquiétude très importante. Et enfin, je reviens sur la question de la bataille des idées. Les islamistes, pourquoi je dis qu'ils ont gagné la bataille des idées? Parce qu'ils sont les seuls à la mener, à l'intérieur de l'islam. Parce que ce qui est très frappant, c'est que, et ça on le voit très bien quand on regarde l'activité sur les réseaux sociaux, quand on connaît aussi le terrain. Aujourd'hui, le discours théologique, il est tenu uniquement, presque uniquement, par les salafistes, les wahhabites, on pourrait rentrer dans les définitions. Et de l'autre côté, les musulmans, que j'appelle silencieux, se laissent désapproprier de l'islam. Donc de ce point de vue-là, ils ont gagné la bataille des idées. Pour autant, et c'est très important, tous les musulmans de France ne sont pas des islamistes. Et au contraire, quand on regarde les chiffres qu'on a pu produire, on a plutôt 50-60% de cette population qui est dans un discours d'acceptation des valeurs républicaines et de la laïcité.
Philippe Diribarne.
Oui, je crois qu'effectivement, Hakim El-Karoui a tout à fait raison de souligner l'extraordinaire divergence, disons, et au fond, le fossé qui se creuse entre ceux qui sont bien intégrés et ceux qui, au contraire, posent problème, les islamistes. Bon, la question c'est qu'on peut se poser, c'est au fond, c'est pourquoi les premiers ont si peu d'influence sur les seconds. Alors, je crois que c'est pas vraiment qu'il n'y ait pas de production. Enfin, il y a toute une série, on connaît Mohamed Harkoun, Khaled Ben Shalit, etc., qui sont des gens qui essaient quand même vraiment de produire une réflexion sur ce que pourrait être un islam qui soit tout à fait compatible. Enfin, vous évoquez, je crois, dans votre livre, si vous voulez, l'importance d'avoir une ligne théologique en accord avec les valeurs de l'Occident. Et donc, il y a des gens qui y travaillent. Et je crois que le fossé vient de ce que font les personnes qui sont font d'héritage musulman et qui sont bien intégrées tout à fait, comme vous le soulignez, dans la société française, font se répartir, il me semble, entre trois groupes. Si vous voulez. Un groupe, vous dites, qui quitte carrément l'islam, enfin, que vous évaluez à 15%. Un groupe qui est très religieux, mais disons une religion très liée au soufisme, à l'héritage soufi, à l'héritage mystique musulman, et qui, eux, au fond, s'écartent beaucoup, au fond, s'intéressent pas tellement à ce qui se passe dans l'islam ordinaire, et puis bien sûr ceux qui pratiquent un islam un peu light, disons, à partir du moment où ils ont fait à peu près le ramadan, où ils mangent pas de porc, ou pas du vin, ils hésitent un peu. Bon, ils se considèrent comme en règle avec l'islam. Alors, tout fond, tout cela, finalement, s'intéresse pas tellement à ce qui va se passer dans cet univers sur les salafistes, dans lequel on voit bien que dans les, enfin, pour toute une série de gens, en particulier des banlieues qui sont à la fois entre la culture des bandes, une certaine haine, les jeux vidéo, etc., disons, ils sont, enfin, en quelque sorte préformatés pour recevoir le salafisme.
Il y a ces trois groupes. Mais j'ai l'impression que le problème va au-delà du salafisme et du wahhabisme. Et je tire cette impression de la lecture de votre ouvrage, Hakim El Karoui. Parce que vous dites, vous notez l'adhésion des musulmans de France, et ça c'est quand même très global, au halal et au voile. Vous parlez d'halalisation de l'esprit. Vous dites que dans la religion traditionnelle, il n'y a pas cette obsession du halal, puisque... les musulmans sont autorisés à manger la même chose que les gens du livre. De même pour le voile. Vous dites qu'on lui accorde une importance particulière aujourd'hui et que ça ne procède pas nécessairement d'une lecture du Coran. Et vous dites que c'est l'adhésion des musulmans de France et vous dites que ces conservateurs traditionnels sont en train de gagner la bataille culturelle qui se joue. Donc ça va au-delà du militantisme des fréristes ou des salafistes. Et le halal et le voile sont quand même des formes d'affirmation identitaire qui, en quelque sorte, rendent l'intégration et ce que vous osez appeler l'assimilation extrêmement difficile. Hakim El Karoui.
Oui, il y a clairement, il y a trois cercles. Il y a un cercle de militants, il y a un cercle de sympathisants, et puis il y a un cercle de gens qui sont influencés. Un des problèmes de l'islam, c'est la très faible culture des musulmans sur leur propre religion. Les musulmans de France, c'est qui? C'est aux trois quarts des gens qui viennent du Maghreb, en gros 10% d'Afrique subsaharienne et 10% de Turquie. Les Maghrébins ont des caractéristiques suivant les pays assez différentes. Les Algériens, en fait, sont souvent arrivés assez profondément désislamisé, notamment à cause de la colonisation. L'islam des Marocains était assez différent parce que c'était un islam plus traditionnel, avec y compris pour les gens qui venaient des montagnes, des rites magiques, etc. Enfin, où on était un peu à la frontière de l'animisme et puis d'une religion monothéiste. Les Tunisiens sont plutôt entre les deux. Et puis, on a des gens qui étaient à deux tiers ou 70% de milieux très populaires. Ils sont venus ouvriers, souvent analphabètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une forme de néo-islamisation. Aujourd'hui, ceux qui sont les militants, ce sont essentiellement des jeunes, pas forcément des moins de 25 ans. Je parle des militants. Les militants, c'est plutôt des gens bien éduqués qui vont avoir entre 25 et 50 ans. Et puis les sympathisants, ça va être beaucoup les jeunes, puis après il y a le reste de la population. Ces militants-là, ils disent, vous, nos parents, vous avez été humiliés. Vous, les enfants, vous n'êtes pas complètement français, la France vous rejette. On a des enquêtes où on a un tiers des enfants d'immigrés, c'est pas des musulmans, mais des enfants d'immigrés où il y a beaucoup de musulmans, qui disent souffrir d'un déni de francité. Je cite l'INED. Et la réponse, disent-ils, elle est très simple. Vous n'êtes pas français, vous n'êtes plus du pays d'origine, mais vous êtes musulman. Et musulman, c'est quoi? C'est une identité universelle, qui d'ailleurs est souvent ajoutée à une identité qui est très locale. Très locale, on est de Seine-Saint-Denis, on est de Saint-Denis, on est de tel quartier à Saint-Denis. Et cette identité musulmane, ce n'est pas la religion de la famille, ce n'est pas la religion des parents, parce que les parents ont été humiliés. Donc c'est un nouvel islam, et ils disent, à commencer par les salafistes, vous étiez ignorants, eh bien tant mieux. Parce que vous allez pouvoir avoir accès aux savants, à la vraie science. Et donc on a une dynamique qui est très forte, qui s'inscrit dans deux crises. La crise du monde musulman, transformation du monde musulman, dont on dira peut-être un mot, et puis la crise d'insertion des jeunes des quartiers populaires, qui est une crise de l'intégration, mais qui est aussi la crise des jeunes français, des nouvelles générations françaises, qui est une crise de l'affirmation identitaire des individus, et tout ça précipite d'une certaine manière. Et donc on a ces trois cercles avec une dynamique de militantisme et d'influence qui s'étend très clairement.
Vous faites le même diagnostic, Philippe Diribarne?
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, un point qui me paraît très important dans ce que vous venez de dire, c'est que l'islam traditionnel des parents, en particulier l'islam marocain, très lié au culte des saints, au marabout, etc., ne marche plus. Il a été dévalorisé, si vous voulez, auprès des enfants. Donc, qui sont dans une sorte de néo-islam beaucoup plus radical. Alors, la question, c'est que, qu'est-ce qu'on peut opposer à ça d'autres, disons, que l'islam traditionnel, et font pourquoi les efforts qui sont faits par les penseurs musulmans qui veulent ouvrir, créer un islam des Lumières, sont si peu reçus. Bien, parce que c'est quand même quelque chose, si vous voulez, de très difficile à faire. Quand on parle d'un islam qui serait en accord avec l'Occident, etc., jusqu'où va-t-on? Est-ce que, par exemple, cet islam va admettre la liberté de conscience? C'est pas du tout évident, disons, par rapport à la tradition, disons, musulmane. Est-ce qu'il va renoncer à ce qui est, je pense, extrêmement séduisant dans le salafisme, c'est ce grand projet de conquête du monde lié à toute la geste historique de l'islam, etc. S'il va renoncer à ça, est-ce qu'il va accepter, et là c'est un point, je pense, dont on parlera à propos de l'enseignement de l'islam dans les écoles, qu'on adapte, qu'on utilise la méthode historico-critique qu'on va utiliser couramment pour le judaïsme, le christianisme, etc. Est-ce que ça va être accepté, si vous qu'on le fasse, et comment ça est susceptible d'être reçu, disons, dans les banlieues? Non, au fond, je crois que cette construction d'un contre-discours et d'une contre-vision de l'islam auquel vous, M. El-Khaoui appelle de manière très, très heureuse. Je crois qu'il faut souligner à quel point c'est très difficile.
C'est difficile, je vous dirais, faute de militants. Parce que la matière intellectuelle existe. Elle existe depuis longtemps, elle existe en France, en Europe, depuis quelques décennies, mais elle existe dans les pays musulmans depuis toujours. Il y a toujours eu un débat à l'intérieur de l'islam sur la réforme, sur la modernisation, sur le rapport à la rationalité, etc. Mais la difficulté qu'on a, et c'est pour ça que je dis que les islamistes ont gagné la bataille des idées, c'est que ce sont les seuls à avoir des idées. Et les autres, qui sont nombreux, ont laissé le discours sur la religion, le discours sur la théologie, aux mains des militants. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des théologiens qui pensent la réforme, mais ça veut dire qu'il y a peu de gens pour le supporter. Quand on regarde les réseaux sociaux, et c'est un outil à la fois formidable au sens latin du terme, ça fait peur. Mais c'est un outil de mesure aussi. On voit très bien comment se diffusent les idées et on voit aussi très bien la répartition des rôles entre les salafo-wahhabites et puis ceux qui sont plutôt dans l'orbite des frères musulmans. Les wahhabites parlent que de religion, de théologie, avec d'ailleurs un discours qui a changé depuis le Bataclan. Parce que la première cible des wahhabites, c'est les autres musulmans qui sont désignés comme étant de mauvais musulmans. Ils font attention maintenant. Ils vont parler d'abord aux musulmans, d'abord de leur doctrine, très peu d'ailleurs des non-musulmans, et donc ils font attention, mais ils ont toujours fondamentalement la même vision du monde. Et puis on a un discours qui est plus politique, où il y a un mélange d'identitaire, de victimaire, de dénonciation des injustices, etc., qui lui est plus porté par des gens qui sont proches des frères musulmans. Quand on fait l'addition de ces deux discours, et quand on regarde d'une certaine manière leur part de marché, on arrive à 90%. 90%. Le discours sur l'islam porté par des musulmans, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas des musulmans, qui parlent d'islam. Mais le discours sur l'islam porté par des musulmans, il est aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
90%.
Pratiquement à totalité porté par des islamistes.
Bon, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas justement, vous dites, les autres, on ne les entend pas. Mais si on ne les entend pas, cela ne procède-t-il pas, je vous pose la question les deux, d'une difficulté interne à l'islam? Parce que, vous l'écrivez, Philippe Diriban, dans votre livre, le Coran contient la parole divine à l'exclusion de tout apport humain, ce qui est déjà différent de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est ce que dit aussi Rémi Brague, le Coran représente l'œuvre non pas de Mahomet, mais bien de Dieu en personne, le prophète en aurait recueilli la dictée, qu'il aurait à son tour restitué sans y modifier quoi que ce soit. Dès lors, il n'y a plus de place pour l'interprétation, ni a fortiori pour un discours critique. Donc, c'est cette difficulté-là, comment peut-elle être surmontée à l'intérieur même de l'islam? Soit par l'islam des Lumières, soit par des théologiens qui voudraient donner une interprétation du Coran plus compatible avec, disons, la modernité, les droits de l'homme, etc. Hakim Karoui et plus Philippe Diribarne.
Je vais vous répondre de deux manières. D'abord, par un paradoxe. Les salafistes, en fait, sont en train de montrer que l'on peut s'émanciper du texte coranique. Pourquoi ? Parce que les salafistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher des normes. Ils sont obsédés par les normes de comportement. Bon, ils disent les trois premières générations, le prophète et les deux générations qui ont suivi, vous donnent des clés pour votre vie quotidienne, pour votre vie en général et pour votre vie quotidienne. Et en fait, ils déplacent le sujet de l'interprétation du Coran au discours sur les hadiths. Les hadiths, c'est quoi ? Ce sont les propos rapportés du prophète. Et d'une certaine manière, ils sont en train de donner corps au prophète. Le prophète, dans le Coran, c'est très peu de choses. Jésus, beaucoup plus présent dans le Coran que le prophète. Mais eux vont chercher ces faits et gestes, ces dits, et d'une certaine manière, s'émancipent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut regarder ce qui se passe dans la vie quotidienne. Les 50 ou 60% de musulmans silencieux dont je parle, ils sont en train d'inventer une façon d'être français et musulman. Chacun bricole d'une certaine manière, sachant que l'orthopraxie est toujours très présente, c'est-à-dire le comportement. Mais le comportement, c'est quoi ? C'est plein de questions très concrètes. Est-ce que je bois de l'alcool ? Est-ce que je mange du porc ? Comment j'élève mes enfants ? Est-ce que mes garçons vont être circoncis ? Est-ce que j'accepte les mariages mixtes, etc. ? Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette transformation, cette invention à bas bruit dans la société française. Et le plus beau chiffre qu'on a, c'est le taux de mariage mixte des femmes musulmanes, interdit par l'islam, interdit par la culture arabe. L'exogamie. L'exogamie hors de la religion. On est à 20 ou 25% au bout de 40 ans. Donc on a une situation qui est vraiment paradoxale avec d'un côté une dynamique d'intégration très forte et d'une certaine manière de déstructuration des valeurs traditionnelles venues du monde arabe qui va jusqu'à cette permission, cette autorisation. Les femmes se marient avec des non-musulmans. Et puis de l'autre côté, on a effectivement un discours, une pratique très engageante, très discriminante, avec un objectif pour certains militants qui est de séparer.
Philippe Diribarne.
Effectivement, c'est très frappant enfin aussi de voir à quel point où il se construit, disons, mais il se construit au fond une sorte d'islam, j'allais dire illégitime. Enfin, regardé en tout cas comme illégitime par les salafistes. Ils considèrent que, au fond, ces gens ne sont pas des vrais musulmans. Et du reste, on voit bien ce nombre de familles dans lesquelles les parents ont évolué dans le sens que vous soulignez, voir leurs enfants leur reprocher vertement qu'ils ne sont pas de vrais musulmans et dire « nous, on va être de vrais musulmans, on va retourner au salafisme ». Alors, sur l'aspect révélé, dans l'islam, il y a eu un courant au Xe siècle, le Mu'tazilite, qui niait cet aspect, disant « seul Dieu est parfait, et donc il ne peut pas y avoir un texte qui soit parfait, et ça a été repris, si vous voulez, dans la période actuelle. Mais je pense que pour beaucoup, il y a un deuil à faire de ce côté-là qui n'est pas si facile. Si vous voulez. Et alors, quand même, la transition, si vous voulez, de l'un à l'autre, c'est que on retrouve chez les salafistes cet univers dans lequel il y a vraiment, on a clairement une opposition entre les bons et les méchants. Et tout cet univers, c'est les bibliques dans lequel il y a des gens qui sont à la fois bons et méchants. Je sais pas, le roi David, par exemple, grande figure d'Israël, le prophète Nathan lui reproche amèrement sa mauvaise conduite. Et vous prenez, si vous voulez, dans les textes évangéliques, tous ces gens, Pierre est pas si bon, le bon larron, etc. Alors, là, je crois que t'as un problème, si vous voulez, de la tradition de l'islam. Alors là, que les salafistes exagèrent, disons, en quelque sorte, c'est cette absence un peu, si vous voulez, de l'ambiguïté humaine, des gens qui sont à la fois bons et méchants, etc., ce qui fait que ça prédispose à dire, nous, on forme une vraie communauté, une communauté de purs, etc., et on va rejeter tous ceux, et y compris ceux qu'on considère comme les mauvais musulmans, qui, eux, ne nous suivent pas, et qui, donc, vont être qualifiés de non-musulmans.
Oui, mais n'y a-t-il pas une autre difficulté qui tient à ce que l'islam se donne comme la dernière et en même temps la première des religions, c'est-à-dire une religion qui coiffe toutes les autres et d'autre part qui explique que les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs écritures. Donc l'islam est présent en France avec d'autres religions. Comment se passe ce lien dès lors que dans la théologie musulmane, il n'y a la vérité religieuse, c'est l'islam. Et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés, par-delà la situation française, du dialogue interreligieux que le pape notamment veut mener aujourd'hui à échelle mondiale. Comment faire pour que l'islam s'admette comme une religion parmi d'autres à égalité avec les autres ? Hakim El-Karoui.
Alors là, vous posez une question théologique. Moi, je ne suis pas théologien. Ce que j'ai regardé, c'est plutôt le fait politique de l'islam aujourd'hui. Ce que je sais, c'est qu'il y a une capacité dans les textes à argumenter et à trouver tous les éléments de dialogue. Qu'une religion prétende être la vraie religion, je ne suis pas sûr que ce soit spécifique à l'islam, ni même d'ailleurs que l'orthodoxie idéologique soit spécifique à l'islam. On parlait du volonté de séparer et de dire nous avons la vérité. Il y a beaucoup de religions où il y a des orthodoxes qui disent nous avons la vérité. Il y a beaucoup d'idéologies où les maoïstes à l'époque disaient nous avons la vérité. Bon. Et tout ça se ressemble, évidemment. Donc, ce que je vois, et c'est pour ça que je pense que, on parlera d'organisation après, on ne gagnera pas la bataille culturelle à l'intérieur de l'islam et celle du dialogue entre l'islam et la République si on ne va pas chercher les musulmans silencieux. Ce qui est très compliqué. Parce que, d'un côté, ils disent, mais c'était le cas au moment des attentats. On disait, mais condamné. Condamné, évidemment condamné. Ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'on devrait condamner alors qu'en même temps, on nous dit, disparaissez. Disparaissez en tant que musulmans. La religion est une affaire privée. Ne la mettez pas en avant. Je pense que le moment où on est, qui est peut-être un moment dans le processus d'intégration ou d'assimilation, le moment où on est fait qu'ils doivent prendre la parole en tant que musulmans, mais surtout et peut-être d'abord en tant que Français. Et ne pas laisser le discours sur l'islam, le discours, l'idéologie sur l'islam, porté uniquement par les islamistes qui ont un projet politique qu'il faut prendre au sérieux et pas dénoncer comme ça en jetant des anathèmes. Il faut le prendre au sérieux. C'est un projet alternatif au projet occidental. Il y en a d'autres dans le monde. Le projet chinois aujourd'hui, c'est un projet alternatif au modèle occidental. La différence, c'est que les Chinois ne vivent pas en France. Bon, par contre, ils font de la politique. Il y a beaucoup de musulmans en France, ils sont gagnés par cette dynamique-là, mais la situation n'est pas perdue. Et je vous dis, ce qui est frappant, c'est la divergence. Donc il faut réussir à faire prendre la parole, à faire en sorte que cette majorité silencieuse s'engage, et à mon avis, c'est elle qui doit mener la bataille contre les islamistes. C'est elle qui sera la plus légitime et c'est elle qui évitera de tomber dans la victimologie, le racisme, etc., tous ces discours.
Ah, très bien. Philippe Ribard.
Je crois effectivement, je crois que vous soulevez un point tout à fait important. Disons, dans le rapport entre les musulmans et l'Occident. Comme Hakim El-Karoui l'a souligné là tout à l'heure, il y a quelque chose de paradoxal. Hein. C'est que dans le Coran, Jésus occupe effectivement, comme vous l'avez dit, une place plus importante que Mahomet. Alors, bon, on pourrait s'attendre logiquement à se dire de même qu'on s'intéresse aux hadiths, donc à tout ce qu'a dit Mahomet, aux paroles, aux actes de Mahomet, ben, des musulmans, disons, conséquents devraient s'intéresser aux paroles, aux actes de Jésus, et donc aller voir, etc. Et de la même façon, si vous ne déclenchez pas, quand les chrétiens s'intéressent à Abraham, ben, ils vont voir dans les textes juifs ce que les juifs disent d'Abraham. Enfin, il y a tout à fait une reconnaissance de l'héritage juif chez les chrétiens. Je crois que si les musulmans reconnaissaient, mais comme un fait historique, si vous voulez, finalement, le fait qu'ils ont un héritage juif, chrétien, et que, au fond, il est bon pour eux de se réconcilier avec cet héritage. Et surtout qu'au fond, à partir du moment où ils sont dans un Occident qui est marqué par cet héritage, s'ils se réconciliaient avec cette part d'eux-mêmes, si vous voulez, qui est dans cet héritage, je pense que du coup, à la fois, ils verraient moins l'Occident comme étant un Occident diabolique, athée, qui a abandonné tout rapport au spirituel, au transcendant, etc., et qui verrait qu'au fond, la possibilité de se réconcilier avec l'Occident est plus grande qu'il n'imagine. Alors, il y a des musulmans, j'en connais, qui font tout à fait cette démarche-là, mais probablement, malheureusement, ils sont pas très nombreux, et c'est pas une piste, disons, que officiellement, je dirais, ni les musulmans, ni les juifs ou les chrétiens n'ont vraiment tellement cultivé.
Je suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Philippe Diribarne, sauf sur un point, les musulmans. Je pense que ça n'existe pas, les musulmans. Il y a des musulmans. Ce dont on parle, ce sont les islamistes. Encore une fois, une idéologie qui est, faut prendre au sérieux. Les islamistes, ce ne sont pas tous les musulmans. Quand on regarde la répartition idéologique telle qu'on peut la mesurer avec précaution, on voit que les islamistes, c'est une bonne partie, mais ce n'est pas tout le monde. Et que les gens qui sont en train d'inventer une façon d'être français et musulman, je vous dis, avec un bricolage qui est un bricolage religieux, un bricolage identitaire, qui peuvent être influencés par la puissance idéologique de l'islamisme. On le voit sur le voile, on le voit sur le halal. Mais pour autant, ils ne sont pas tous dans l'idée que l'islam et l'Occident sont par définition en conflit. Ça, c'est l'histoire de la création de l'islamisme. L'islamisme est né de sa rencontre avec l'Occident. Et puis aujourd'hui, il est accéléré par la modernisation des sociétés arabes et musulmanes. Mais voilà, faisons toujours attention à mettre de la complexité. C'est pas noir et blanc. Voilà.
C'est pas noir et blanc, mais parlons justement de ces bricoleurs identitaires. Vous avez souligné tout à l'heure, Hakim El Karoui, le risque de la victimologie. Or, ce ne sont pas simplement les islamistes qui réagissent aux attentats en disant que, différemment en tout cas, de la population majoritaire, ce sont aussi ces musulmans silencieux, parce qu'ils disent qu'avec ces attentats, par exemple, l'islamophobie va être relancée. Donc, ils s'estiment eux-mêmes les victimes prioritaires, assez souvent. Et ils sont aidés dans ce sens par une partie de l'opinion ou des faiseurs d'opinion qui pointe immédiatement le risque de stigmatisation de la population. Et alors là, j'en viens à une petite question taquine, à Hakim El Karoui, parce que vous parlez de moi dans votre livre, je l'ai découvert, vous dites que j'ai un problème, je suis un littéraire égaré qui parle d'une société française que je ne semble connaître que par le journal de 20h. Si, d'abord, je ne m'informais qu'au journal de 20h, je ne saurais rien. Précisément parce que le journal de 20h veut éviter cette stigmatisation. Ce que je sais de la situation française, je l'ai appris notamment dans les territoires perdus de la République ou dans le livre plus récent des gens qui travaillent autour de Georges Bensoussan, une France soumise. C'est là que, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en effet, existait un risque de fracture. Et puis j'en ai eu la confirmation dans les travaux très savants d'un homme que vous citez à plusieurs reprises, Gilles Kepel. On souhaite ne rien voir précisément parce qu'on ne veut pas désigner du doigt une population précaire et parce qu'on a peur de l'islamophobie. Concept d'ailleurs que vous reprenez à votre compte et vous nous expliquez pourquoi. Donc voilà, je parle des bricoleurs identitaires eux-mêmes et je vois aussi une difficulté, un blocage de ce côté-là. Hakim El Karoui plus Pierre-Philippe Deribar.
Moi, ce que j'essaye, c'est de tout voir. Ce que je vous reproche dans ce passage, c'est de ne voir qu'une partie et de généraliser à partir d'une partie. Oui, il y a des problèmes qui sont très graves. Je crois, j'espère que je ne les sous-estime pas. Ces problèmes ne disent pas toute la réalité. Et les médias, par ailleurs, parce que ces problèmes sont criants, vont donner de l'importance à cette situation. Sur l'islamophobie et sur le discours de la gauche, une certaine gauche, puisque c'est de ça dont on parle. Le problème du mot islamophobie, c'est qu'en fait, ça veut dire deux choses. Ça veut dire la xénophobie, la peur de l'islam. On peut discuter du mot phobie, est-ce que c'est le bon terme ? Et puis ça veut dire aussi le refus de l'islamisme. Et ceux qui tiennent le discours sur l'islamophobie, ceux qui tiennent le crachoir du discours sur l'islamophobie, ce sont en général plutôt des prédicateurs ou des prêcheurs islamistes qui vont mélanger la critique de l'islamisme et la critique de l'islam. Donc moi, je pense que je n'utilise pas le mot dans mon livre, je parle de xénophobie anti-musulmane. On peut discuter des termes, précisément à cause de cette difficulté quant à l'interprétation du mot. Pour autant, ça ne veut pas dire que la xénophobie anti-musulmane n'existe pas. Elle est très profonde, très violente, avec une limite qu'on a vue pendant les attentats, après les attentats, c'est la violence physique. Il n'y a eu aucun cas de violence physique. Par contre, les discours, évidemment, eux, se sont déchaînés.
Sur les réseaux sociaux, pas dans la presse.
Sur les réseaux sociaux... Pas dans la presse, parce que la presse... mais par contre, sur les réseaux sociaux, on a une violence. Mais alors, c'est pas quand on parle d'islam, peut-être qu'on parlera de la langue arabe. Les gens deviennent souvent hystériques et perdent complètement la mesure de ce qu'ils disent. Peut-être encore un mot, et j'en finis, et j'ai été trop long, pardon, sur le discours, un certain discours de gauche. Je pense qu'il a le même problème. Parce que moi, ce qui m'agace, dans le, si on prend le discours d'Edwy Pennel, par exemple, lui, on sent qu'il a besoin d'avoir une victime sous la main. Bon. Parce que ça participe de sa construction, de sa vision du monde. Je respecte sa vision du monde, mais j'ai envie de lui dire, les musulmans ne sont pas cette victime. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés avec l'immigration, avec l'intégration, avec le racisme, avec la xénophobie. Mais si on les assigne au rôle de victime, on leur rend un très mauvais service. Et puis par ailleurs, je ne comprends pas comment des gens qui se réclament d'une gauche progressiste peuvent se retrouver, de fait, dans le camp des islamistes, qui eux ne se revendiquent pas du tout d'une vision progressiste du monde, de la société, des relations évidemment entre les hommes et les femmes.
Philippe Diribarn.
Je crois très important ce que vous venez de dire, c'est sur ceux qui font le bricolage identitaire. C'est vrai, ce serait souhaitable qu'ils construisent quelque chose, qu'ils passent, et je pense que c'est ce que vous souhaitez, qu'ils passent du bricolage à quelque chose de plus construit. Par exemple, ce serait intéressant de voir que, de même qu'il existe des synagogues libérales, je sais pas, la synagogue de la rue Copernic, qu'on ait des mosquées libérales dans lesquelles toute cette minorité, s'exprime, vive et montre que, et témoigne, d'un islam à la fois de son attachement à l'islam, mais d'un islam qui soit tout à fait en accord avec ce qu'elle vit. Alors, sur l'autre aspect, sur des réactions vis-à-vis de l'islam, je crois que vous avez tout à fait raison de souligner le fait du vraiment très très mauvais service qui est rendu aux musulmans en essayant de les convaincre qu'ils sont victimes, qu'ils sont dans une position victimaire. Il y a toute une série d'études qui sont faites, à la fois des études dites de victimisation, on demande aux gens est-ce que vous avez été discriminé, etc. Des études où on interroge au contraire la population majoritaire sur qu'est-ce que vous pensez de l'islam, et puis des études de testing dans lesquelles on compare les réactions vis-à-vis des employeurs potentiels, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a, pour le coup, disons, effectivement, une extraordinaire différence entre les réactions des gens. Il n'y a pas du tout de réaction, de même que il n'y a pas des musulmans en général, de même il n'y a pas du tout des réactions envers les musulmans en général. C'est si on prend, par exemple, les enquêtes dites de victimisation, il y a en Europe, en gros, 20% des musulmans qui disent « je suis discriminé ». Mais la majorité dit « non, je ne suis pas discriminé ». Dans les 5 ans qui précèdent, je n'ai pas été discriminé. De même, si l'on prend les testings, on voit que en fonction de la diversité, les gens, selon qu'ils ont été, par exemple, musulmans, dans des scouts laïcs, selon leur prénom, selon leur itinéraire professionnel, le type de pas, on a des réactions tout à fait différentes des employeurs. Donc, je crois que quelque chose, effectivement, dont il faudrait sortir, c'est de même qu'il faut sortir de la vision de musulmans, tous pareils, tous non intégrés, etc. Il faut sortir de la vision d'une société qui, globalement, rejetterait les musulmans et l'islam de manière indiscriminée, en fonction, indépendamment de ce qu'ils sont. Et je crois que le grand problème de cette notion d'islamophobie, c'est qu'elle essaie de mettre à la place d'une série de réactions tout à fait différenciées, tenant compte de la grande diversité des musulmans, de mettre à la place l'idée qu'il y aurait une sorte de réaction pavlovienne, indiscriminée, viscérale, qui serait liée à des choses obscures, qui en fait n'existent pas.
Sur la notion d'islamophobie, je voudrais vous citer cette phrase de Salman Rushdie. Quelque chose de nouveau était en train de se produire, la montée d'une nouvelle intolérance. Elle se répandait à la surface de la Terre, mais personne ne voulait en convenir. Un mot nouveau avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles, l'islamophobie. En tout cas, vous n'êtes aveugle ni l'un ni l'autre, et vos diagnostics sont assez proches. Et vous dites aussi, d'ailleurs, dans votre livre, Hakim El-Karoui, que les imams sur Internet et sur YouTube ont un immense succès, et ce sont souvent les prédicateurs les plus radicaux. On sait aussi que dans les entreprises, maintenant, il y a de plus en plus de revendications pour organiser des prières, etc., etc. Donc ce mouvement existe. J'avais lu le rapport Aubin, il y a quelques années, sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires, et il concluait Tout laisse à penser que dans certains quartiers, les élèves sont invités à se méfier de tout ce que les professeurs leur proposent, qui doit d'abord être un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la cantine dans leur assiette, et qu'ils sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories du halal et du haram. Donc c'est ce que vous appelez vous-même la halalisation de l'esprit. Donc vous ne vous cachez pas derrière votre petit doigt, Hakim El Karoui, c'est le très grand intérêt de votre livre, mais maintenant... Comment faire pour s'opposer victorieusement à ce mouvement? Le bricolage identitaire dont vous parlez ne suffit pas. Quelles sont vos préconisations, Hakim El Karoui?
Alors, je pense qu'il y a deux types de préconisations assez différentes, mais qui en fait se complètent. Il y a une question d'organisation. Et puis, il y a une question idéologique. Ce dont on parle, en fait, c'est d'un processus de construction d'une hégémonie culturelle. D'ailleurs, moi, c'est ça qui m'intéresse, d'une certaine manière, le plus d'un point de vue intellectuel. Comment on réussit à prendre comme ça une emprise sur une partie de la population et à diffuser avec des moyens industriels des idées? Si on regarde la question de l'organisation, il faut partir de... Alors là, je parle de l'islam en France, avec l'idée de créer un islam de France. Islam de France, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une théologie française de l'islam qui serait différente de la théologie allemande ou de la théologie marocaine. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une organisation spécifique. Il y a des islams marocains, algériens, tunisiens, turcs, égyptiens, saoudiens. Chacun a son islam. Aujourd'hui, on a une situation où on a une organisation qui est censée représenter l'islam, qui s'appelle le CFCM, qui en fait représente des mosquées qui sont à la main de pays étrangers, qui ne sont pas l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais l'Algérie, le Maroc et la Turquie, et qui en fait n'ont aucun intérêt à voir émerger un islam de France. Parce que eux, ces pays, ce qu'ils veulent garder, c'est leur influence sur les musulmans en France et leur influence sur la France. Parce que évidemment, quand on a une influence sur les musulmans de France, on peut dire qu'on a une influence sur la France. Donc ça, il faut rompre avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter leur financement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils financent 300 imams. Demain, si on dit on arrête leur financement, on ne sait pas remplacer ces 300 imams. Et c'est vrai, c'est ce qu'ils disent, et c'est vrai que ces 300 imams ne sont pas les plus radicaux. Bien au contraire. Par contre, il faut contrôler cet argent et surtout faire en sorte que l'on puisse bloquer leur influence politique. Et notamment l'influence politique des Turcs, qui aujourd'hui est grandissante. Quand M. Erdogan vient à Paris, il voit le président de la République le matin, il réunit le CFCM l'après-midi.
Ah bon?
Oui. Bon, les Turcs, faut juste un mot sur les Turcs. Les Turcs, c'est la communauté la moins intégrée. On le voit très très bien quand on mesure l'alphabétisation des femmes, le nombre de mariages mixtes, l'accès à l'enseignement supérieur des femmes d'origine turque en France, c'est le plus bas et de très loin. Et derrière, les Turcs l'assument. Je parle du gouvernement turc. Il dit l'intégration, c'était une phrase d'Erdogan en Allemagne, mais ça vaut pour la France, l'assimilation est un crime contre l'humanité. Ils veulent contrôler leur population, ils considèrent que leur population leur appartient. Et ils utilisent la religion pour faire ce contrôle social. Via une administration, le Diyanet, et via une association active qui s'appelle le Miligoruch. Traditionnellement, le Miligoruch allait contre la Diyanet. La Diyanet était kémaliste. Aujourd'hui, la Diyanet est akapiste, donc islamiste, etc. Donc tout le monde va dans le même sens. Donc eux, ils sont en train de bloquer la dynamique d'insertion des Turcs dans la société française, mais plus généralement, ils essayent de prendre le pouvoir sur l'islam de France. Donc il faut arrêter tout ça. Comment on fait? Je pense qu'il faut reconnaître le conflit d'intérêts du CFCM. Conflit d'intérêts au sens où ils ne travaillent pas pour l'islam de France. Et c'est ça qui est aussi très important, les aspects financiers. Derrière, il y a de l'argent. Il y a de l'argent et il y a de plus en plus d'argent. Le marché du halal augmente 5, 10, 15% par an, nous disent les distributeurs. Le pèlerinage est devenu un enjeu économique. Et puis, il y a des dons. On a du mal, évidemment, à mesurer, mais 150, 200, 250 millions d'euros. Moi, ce que je propose, c'est de créer une structure de financement tout à fait profane, mais avec une loi de 1905, qui permettrait, en prenant des prélèvements sur le marché du halal, en se mettant tout en amont de la chaîne, au moment du pèlerinage, en accréditant, en rendant un service, en se mettant du côté des fidèles, du consommateur d'une certaine manière, on leur rend un service, on met de la transparence et du professionnalisme dans un système qui est extrêmement opaque, on peut lever de l'argent et surtout avoir des flux d'argent réguliers, y compris d'ailleurs avoir des dons. Et avec cet argent-là, qui doit être administré par des gens sans conflit d'intérêts. Et par des gens qui ont une expérience, d'une certaine manière, de l'organisation, j'allais dire un mot horrible, le management. On a besoin de transparence et de professionnalisme. Si on peut lever, au début, 10, ensuite 15, 20, 50, 80 millions d'euros, on va pouvoir s'affranchir de la tutelle des pays d'origine. Et puis surtout, on va pouvoir flécher l'argent. Vous voulez des imams? Très bien, ben, présentez-nous le CV de l'imam. Expliquez-nous comment il parle français, ce dont il parle, quelle est sa présence sur Internet. On vit avec l'idée en France que bah, finalement il y a une recrudescence du religieux musulman et donc les imams vont jouer le rôle que les prêtres, les curés avaient dans la France catholique rurale du 19e siècle. C'est pas du tout le cas. Les imams n'ont absolument pas l'influence que le prêtre pouvait avoir en Bretagne au 19e siècle. Les imams, c'est souvent des gens qui sont d'abord très mal payés, qui parlent mal français parce qu'ils viennent de conditions modestes et ils sont souvent immigrés de fraîche date. Et quand ils rencontrent un jeune dont les parents sont là depuis 2, 3, 4 générations, ils se disent mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Non seulement je le comprends mal, mais il ne comprend pas mes valeurs. Donc je crois beaucoup à l'importance d'avoir une organisation nationale au service de l'intérêt général qui sera capable d'un côté de lever de l'argent régulièrement, et puis de l'employer, mais en certaine manière en contrôlant, en fléchant, et puis en mettant une dynamique. Et cette dynamique, elle doit être aussi théologique. Il faut financer des théologiens, des islamologues, des gens qui vont faire le travail critique.
Philippe Deribarne.
Il y a bien sûr tout cet aspect, disons, d'organisation. Et puis, il y a quand même des choses qui se font. Enfin, je crois depuis quelques années, quand même, il y a un début de réaction par rapport au salafisme. Disons, il y a un début de contrôle d'un certain nombre d'imams qui sont vraiment allés trop loin. Et quelque chose qui m'a frappé, par exemple, c'est dans les réactions, disons, du Conseil d'État, on a vu des avocats, disons, d'imams qui étaient de mosquées qui étaient fermées, dire mais il ne fait que qu'enseigner ce qui est dans le Coran et donc c'est le respect, vous ne respectez pas la liberté religieuse. Et on a répondu, le Conseil d'État a répondu que Coran ou pas Coran, du moment que c'était une incitation à la haine, c'était une incitation à la haine et donc on ne l'acceptait pas. Donc je crois qu'il y a déjà des choses qui se font. Alors, on pourrait aller plus loin. Il y a la question que vous évoquez d'un financement, disons, un peu conditionnel. C'est-à-dire que quand les communes fournissent des terrains avec des baux extrêmement intéressants, est-ce que, elles peuvent quand même s'intéresser un peu au contenu du projet et réagir en fonction du contenu du projet? Alors, il y a bien sûr la question de l'enseignement de l'islam à l'école. Moi, j'ai été frappé, si vous voulez, par là. Les déclarations devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale de la nouvelle présidente du Conseil des programmes, disons que Swada Yadat, qui est elle-même musulmane, enfin, et dont il se revendique tout à fait comme musulmane, oui, qui a déclaré la chose suivante à propos de l'enseignement actuel. C'est un enseignement qui sacralise, qui ne me semble pas servir des fins de connaissance. C'est un enseignement qui vise à flatter, à apaiser, à soutenir des choses qui relèvent du vivre ensemble, mais qui n'est pas articulé au souci de vérité. Il faut faire un enseignement qui obéit à toutes les règles de l'histoire critique.
Ça, alors, ça vaut aussi même pour l'enseignement de l'histoire.
Oui, c'est ça.
Mais là, c'est pas seulement parce qu'on le voit d'ailleurs dans les manuels de cinquième.
Tout à fait, voilà.
Une grande difficulté à un point de vue extrêmement critique sur l'Église, l'Inquisition, le combat contre les hérésies, et un point de vue, disons, plus irénique sur l'arrivée et l'expansion de l'islam.
Alors là, disons, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire. Enfin, j'imagine que les professeurs qui vont se lancer dans un jeu, on voit déjà dans toute une partie du territoire les conflits qu'il y a autour de l'enseignement de la philosophie, de l'enseignement des sciences de la vie, etc. J'imagine que c'est très difficile à faire. Mais déjà, le fait que quelqu'un, disons, qui est une femme, qui est musulmane, déclare vouloir faire ça et quelque chose, disons, qui ouvre des perspectives intéressantes. Et puis, alors, en allant plus loin, sur l'aspect le plus vraiment dur, si vous voulez, des islamistes, les gens qui sont chargés de la lutte contre les sectes s'interrogent sur le fait est-ce qu'il n'y a pas certains courants, disons, extrêmes, disons, parmi eux, qui seraient justiciables quand même d'une approche en termes de dérive sectaire, en particulier dans l'endoctrinement des enfants. Voilà. Donc, je crois qu'il y a plein de pistes qui s'ouvrent, ce qui ne veut pas dire que, voilà, qu'elles annulent la piste que vous évoquez, disons, de l'organisation de l'islam.
Alors, mais là, je voudrais vous soumettre d'autres préconisations à Hakim El Karoui, celle de Mohamed Louizi dans une brochure de la Fondation pour l'innovation politique, Libérer l'islam de l'islamisme. Il a le même projet que vous, mais pas tout à fait les mêmes solutions. Il dit, les mosquées doivent redevenir le lieu d'un exercice paisible du culte musulman. Pour cela, il faut réaffirmer la loi 1905 sous la pression croissante des islamistes, les mosquées tendent à devenir des lieux politisés. Or, l'article 26 de cette loi, concernant la séparation des églises et d'État, le prohibe très clairement. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Il importe d'engager une action de dépolitisation de lieux de culte musulmans. Et sa deuxième préconisation, c'est que toute association gérant un lieu de culte musulman, doit être déclarée sous le statut d'association cultuelle, loi 1905. Aujourd'hui, ces associations gérant des salles de prière et des mosquées sont déclarées comme associations culturelles, loi 1901, ce qui leur permet de contourner l'article qui interdit à l'État de subventionner les cultes et de présenter des dossiers de demande de subvention auprès de certaines mairies peu regardantes. Alors, est-ce que vous allez dans ce sens ou non, Hakim El-Karoui?
Oui et non. Oui et non, parce que oui, sur le fond, il faudrait effectivement qu'il n'y ait pas de discours politique dans les mosquées. La réalité, c'est que le discours est rarement politique, il est idéologique. Quelle est la frontière entre le politique et l'idéologique? Tout ça se fait toujours sous couvert de la religion, et ne sous-estimez pas les prêcheurs salafistes ou islamistes. Ils connaissent très bien le droit. Ils savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et notamment depuis les attentats, ils font extrêmement attention, puisque il y a des membres des RG, du renseignement territorial, dans toutes les mosquées le vendredi. Ils savent très bien qu'ils sont écoutés. Donc en général, ils n'ont pas de parole répréhensible. Et puis, encore une fois, ils vont pas vraiment affirmer quelque chose de politique au sens traditionnel. La deuxième chose, deuxième point qui est technique sur 1901-1905, les associations qui portent les mosquées et les lieux de culte. La très très grande majorité des mosquées sont gérées par des associations 1901. Pour une raison simple, c'est pas parce qu'on peut faire de la politique du coup dans les associations 1901. Les mosquées sont considérées comme des lieux de culte, même quand elles sont gérées par des associations 1901. C'est parce que la gestion est beaucoup plus simple que 1905. Et par ailleurs, obliger les mosquées à passer en 1905, ça voudrait dire obliger un certain nombre d'églises à passer en 1905. Parce que il y avait eu, suite au conflit de 1905, en fait, une libéralité qui avait été accordée à un certain nombre de lieux de culte pour qu'ils ne soient pas gérés sous la loi de 1905. Et là, on va sur une autre difficulté, qu'une difficulté de droit. Évidemment, et c'est la République, tout le monde doit être traité de la même manière. Comment on fait pour traiter tout le monde de la même manière quand, à l'évidence, il y a un culte, celui-là? On pourrait parler d'ailleurs des églises évangélistes. D'une certaine manière, il y a beaucoup de points communs. La violence étant la grande différence, ce qui n'est pas une petite différence. Mais comment on fait pour, avec une règle de droit commune, gérer des cas qui sont en fait des cas particuliers? Et là, on a une vraie difficulté d'organisation, une vraie difficulté de droit. Alors c'est vrai que avec la notion d'ordre public, en gros, on réussit à interdire un certain nombre de choses. Après, tout est question d'interprétation de cette notion de droit.
Il me semble que ces questions d'organisation sont bien sûr intéressantes, importantes, de régime légal, etc. Mais, et je crois que c'est un des choses fondamentales que montre le livre d'Hakim El-Karoui, c'est que, au-delà de ces questions d'organisation, il y a vraiment une question de conception de l'islam. Enfin, comment l'islam est, de l'univers spirituel, mental de l'islam, et de faire rentrer, disons, de promouvoir une vision de cet univers mental qui soit en accord avec l'univers mental de la société française.
Est-ce que c'est possible? Justement, en France aujourd'hui, avec la politique ou la non-politique migratoire qui est la nôtre. J'ai lu avec beaucoup d'attention le livre d'Ariane Chemin et de Raphaël Baquet sur Trappes. Et il s'intitule « La communauté ». Et à Trappes, les habitants non-musulmans sont presque tous partis. La communauté s'est installée. Et ce communautarisme existe. Et il ne cesse de se renforcer, parce que pour qu'apparaisse ce contre-feu que vous appelez l'un ou l'autre de vos vœux, il faut aussi que les musulmans ne se sentent pas majoritaires dans un certain nombre d'espaces, parce qu'à ce moment-là, l'optique assimilationniste leur apparaît moins nécessaire, et le discours identitaire, pas forcément le discours de conquête, reprend du poil de la bête, et vous êtes un peu sans pouvoir contre lui, Hakim El-Karoui.
Ce dont parle ce livre que j'ai lu aussi avec beaucoup d'intérêt, c'est une histoire qui est vraiment un archétype. trappe était gérée par les communistes. Les communistes ont été remplacés par les socialistes ont été remplacés par les islamistes ont été remplacés par les salafistes. Bon. Ils ont été remplacés partout dans la vie sociale, dans la vie quotidienne, dans l'action sociale, dans l'action caritative, et puis effectivement dans l'emprise sur la cité. Faut pas non plus caricaturer, le cas est un peu trop typique pour être complètement réel, mais c'est une réalité. Ça pose la question, on a parlé d'assimilation tout à l'heure. Moi, je voudrais expliquer ce que j'entends par assimilation. Je pense pas que ce soit un projet politique, au sens où certains pourraient dire nous sommes pour l'assimilation, d'autres pour l'intégration, d'autres pour le multiculturalisme. Je pense que c'est la façon dont la société fonctionne. Il n'y a pas de politique d'intégration au sens où ce serait l'État qui déciderait. C'est la société qui fait, c'est les individus qui fabriquent ça. Et l'assimilation à la française, c'est quoi? C'est la majorité qui dit à la minorité, soyez comme nous. Soyez comme nous, pourquoi? Parce que derrière, il y a un projet universel. Et c'est ce qu'on voit dans les mariages mixtes. C'est-à-dire qu'on a ce paradoxe. D'une certaine manière, une très grande fermeture, une très grande violence, et puis de l'autre côté, une très grande ouverture. Quand on a une majorité de la population, une très grande majorité de la population, qui vient de l'étranger. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renverse le système.
Voilà.
Évidemment. Donc, quand on est à l'école, quand on a 95% d'enfants d'immigrés dans une classe, comment voulez-vous qu'ils intègrent un système de code, qui est le système républicain? C'est juste impossible. Et c'est pas de leur faute, d'une certaine manière.
C'est pas de leur faute. Mais nous sommes d'accord. Un mot pour finir, Philippe Desbernes. Mais un mot seulement.
Que dans ces lieux, non seulement les non-musulmans s'en vont, mais la partie des musulmans qui est bien intégrée dans la société française s'en vont aussi, en abandonnant complètement ces lieux à la pression salafiste.
Ben, très bien. Merci pour cette émission et cet avertissement commun que j'ai très bien entendu. Alors, je voudrais citer les titres de vos livres. Philippe Diribarne, L'islam devant la démocratie, aux éditions Gallimard. Et Hakim El-Khaoui, vous venez de publier L'islam, une religion française, chez Gallimard également. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Être catholique aujourd'hui. Mes invités seront Rémi Brague et Denis Moreau. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Manuel Couturier. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.